Retrouve les musiciens des PO tous les jours dans Local Stuff sur Take It.
Aujourd'hui dans Local Stuff, je reçois avec grand plaisir le plus grand bluesman en activité dans les PO actuellement. Il s'agit de Nico Backton. On écoute tout de suite un titre de son album Down the Line. C'est justement le morceau titre. On se retrouve ensuite en interview et en live acoustique dans Local Stuff sur Take It, bien sûr.
Oh, take me to the border, take me to the line. Take me to the limit, baby, where I feel so fine. Take me to the river, take me to the sea. Take me to the fire, babe, the rain don't burn in me. Going down, my baby. Going down, my baby. Go down the line. Yeah, down the line. Ain't carry me no trouble, ain't carry me no load. Going down, 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 down the road. Oh, give me back my mountains and give me back my trees. Give me back the moonlight, babe, I beg you on my knees. Give me back the spirit, give me back my soul. Give me back my freedom now, I'm coming home. Going down, my baby. Going down, my baby. Go down the line. Yeah, down the line. Ain't carry me no trouble, ain't carry me no load. Going down, 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 down the road. So fine. Take me to the river, take me to the sea. Take me to the fire, bear the rain, no burn to me. Going down, my baby. Going down, my baby. Go down the line. Yeah, down the line. Ain't carry me no trouble, ain't carry me no load. Going down, 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 down the road. Going down, 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 down the road. Walk down the road.
Aujourd'hui dans Local Stuff, je reçois avec grand plaisir Nico Backton, sans ses coéquipiers. les fameux Wizard of Blues. Ça va, Nico ?
Bien,
ça
bien,
fait
bien.
Longtemps hein, qu'on avait parlé de
cette
émission. Et voilà, il faut être patient, ça se fait.
Exactement.
À l'occasion notamment d'un concert qui aura lieu le 10 mars,
le
c'est
10
ça
mars, c'est ça, samedi 10. Ouais.
Au Vino Shop, mais ça va nous permettre de parler un petit peu de ta longue carrière et de tes projets, de faire un petit tour d'horizon. Alors déjà, pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, les PO t'ont adopté depuis un petit moment, mais à la base, tu viens d'un pays un petit peu plus froid, je crois.
C'est ça, ouais, un petit peu plus au nord. Oui, non, de Belgique, oui.
Ouais.
De Belgique. Mais bon, ça fait un bon moment que je suis acclimaté maintenant.
Ouais. Je sens que t'es pas sur le
départ. En pays catalan, et je suis pas sûr de remonter tout de suite, là. Non, c'est absolument pas dans les projets. Non,
bon, en plus, le blues, c'est une musique chaude.
Le blues vient du bassin du Mississippi, du sud des États-Unis, donc forcément, il manque juste les champs de coton, mais... On a les vignes, donc c'est bien aussi, finalement.
D'accord. Alors, on va repartir un peu des débuts. T'es chanteur guitariste, qu'est-ce qui est apparu en premier ? C'est le chant ou la guitare ?
Non, les deux plus ou moins en même temps, on va dire l'instrument peut-être d'abord. J'ai commencé petit avec le piano et puis guitare autodidacte vers 11 ans, 10-11 ans, j'ai commencé
donc le piano, c'était les parents, la guitare, c'était
non,
toi.
Pas tout à fait. Non, le piano, c'était pour la musique et c'est vrai que les cours de piano, c'est pas forcément ce que je jouais au piano.
Ouais.
Donc j'avais les cours de piano, mais je jouais des trucs et je cherchais des trucs et tout ça. Et puis j'étais fan de Dire Straits à l'époque. Et donc j'avais acheté un bouquin de partitions de Dire Straits, c'est partitions pour piano. Et au-dessus des partitions, il y avait des petits signes avec des petits points et des trucs comme ça. Et donc je me suis toujours demandé ce que c'était jusqu'au moment où j'ai réalisé qu'en fait, c'était les accords de guitare qui étaient notés. et quand j'ai essayé ça à la guitare, ça marchait.
Oui. Du coup,
Donc c'est comme ça que j'ai commencé la guitare en fait. Mais,
d'accord, c'était pas un vrai choix.
C'était parce que c'était plus pratique aussi pour aller à la plage quoi, la guitare.
Le piano c'est un peu encombrant.
C'est un peu plus lourd quoi.
C'est clair. Et du coup, au début, donc reprendre un peu les morceaux des gens que t'aimais.
Ouais.
Et à quel moment t'as commencé à te dire je pourrais faire des choses plus personnelles
Assez tôt. Quoique je me considère pas comme un grand compositeur ou auteur ou quoi que ce soit, parce que pour moi c'est une question de partage, la musique, donc ce qui est intéressant, c'est il y a des compositions qui quand ça vient tout seul. Quand ça vient tout seul, ça veut dire qu'il y a quelque chose de naturel, il y a quelque chose vraiment qui coule de source.
On appelle ça l'inspiration.
Voilà. Ouais. Mais je cherche absolument pas à écrire ou composer à tout prix. C'est pas du tout le but. Par contre, sur tous les disques, il y a toujours aussi des morceaux qui sont soit des classiques ou des morceaux absolument pas connus, hein, mais donc qui existent déjà. Et j'adore, par contre, donner une nouvelle vie à ces morceaux-là. C'est-à-dire, des fois, repartir du texte ou de la mélodie, créer un arrangement tout à fait différent et tout à fait nouveau. Et là, ça rejoint un peu la composition, parce qu'on crée vraiment une nouvelle chanson, mais avec un texte et au départ d'une chanson existante.
D'accord. T'as rapidement eu envie de croiser le fer avec d'autres musiciens
Quand même.
Ouais.
Ouais.
Ouais, toi, c'était la musique, c'est le groupe, quand même.
C'est le groupe. Ouais. Parce que tout seul, c'est chouette, hein. Mais après... Après, déjà, parce que monter sur scène, ça fait un peu flipper.
On est
même
mieux à plusieurs,
On peut le dire, hein, ça fait quand même pas mal d'années que je monte sur scène et quelques belles scènes, quoi. Mais c'est j'ai toujours autant le trac. Et c'est vrai que quand on est plusieurs, ben on est ensemble, on y va et c'est un truc... Et puis, comme je disais tout à l'heure, pour moi, la musique aussi, c'est une histoire de partage. C'est pas pour le faire tout seul, c'est un petit peu dommage. Et le fait d'être porté par des accompagnateurs, par d'autres musiciens, c'est une vague qui t'emporte, c'est génial quoi. Et j'ai commencé vers 14 ans à faire des trucs en groupe, les premiers petits concerts.
D'accord. Et alors, tu disais tout à l'heure que tu aimais beaucoup Dire Straits. Moi, je sais que tu es un grand fan de Pearl Jam aussi.
Aussi, oui.
Donc, des groupes, on va dire, plutôt rock, mais avec une petite base de blues quand même dans les influences.
Ouais.
À quel moment, toi, tu as décidé de t'orienter vraiment vers le blues, en fait ?
Pendant longtemps, j'ai joué plein de trucs.
Je me doute,
Mais alors, ce qui est marrant, c'est que Souvent, on me demande souvent pourquoi tu as choisi le blues. Mm-hmm. Et j'ai envie de répondre, c'est le blues que tu as choisi. Ouais, ça fait con. Hein, mais non, mais il y a un côté, il y a un peu un côté, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, quoi. C'est les premières musiques que j'ai pu écouter, c'était les disques de mes parents. C'était les trucs qui passaient à la radio et qu'on enregistrait sur cassette à une époque où...
Oui, il enfin, y en a qui ne vont pas comprendre.
Au siècle dernier. Mais donc, c'était ces trucs-là. Et là où vraiment je ressentais, où j'avais la chair de poule, je ne le savais pas encore à l'époque, mais c'était des morceaux qui étaient plus ou moins directement liés au blues. C'était on parlait de Dire Straits, pareil, je devais avoir 13-14 ans, un truc comme ça. C'était Walk of Life, par exemple, une chanson de Dire Straits. C'est là, je sais pas pourquoi, je flashais sur celle-là. Bah, après, j'ai réalisé que Walk of Life, c'est un blues 12 mesures, pur et dur, avec un petit rythme un peu rockabilly derrière et un petit accompagnement, machin. Et c'est un type de. C'est directement ancré dans le blues. Et ce qu'il y a aussi, c'est que. Le blues est à l'origine de tellement de styles de musique différents que forcément, quelqu'un qui dit « Ah non, le blues, j'aime pas », ça n'existe pas. C'est comme dire « J'aime pas les patates ». Tu vois, il y a un côté, c'est pas possible parce qu'il y a trop de façons différentes de jouer du blues que voilà, se limiter à un style de blues en disant « Ouais, mais c'est des trucs tin, 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 avec des solos de guitare qui durent des plombes et tout. Moi, franchement, j'aime pas ça ». C'est un parmi des centaines de styles différents. Donc le but, c'était un peu de se plonger. J'ai été un peu happé par le truc, quoi.
Ouais, ouais. On sent que ta sensibilité t'a naturellement amené vers ça. Et à quel moment tu t'es dit vraiment je vais œuvrer dans ce domaine-là, je vais vraiment m'orienter là-dedans
Premier groupe de blues en parallèle de d'autres groupes de reprises ou quelques compos, mais dans l'idée c'était plus des trucs rock ou pop rock, des trucs comme ça. Premier groupe de blues, c'était en seconde.
Ah oui, quand même.
Ouais, en seconde ou en première, je crois.
Ouais, les années lycées.
Enfin, c'était
quoi.
Les années lycées. Ouais. Et vers 16 ans, un truc comme ça. Je devais avoir 16 ans et c'était. Avec mon prof de géo à la base, d'ailleurs, c'était assez rigolo. C'est bien, bien amusé. En trio. Et c'était Bert & Friend The Backton Blues Band. Donc, c'était Blues Band. Le premier vraiment groupe de blues.
D'accord.
Blues attitré.
Et là, t'étais déjà au chant
Et là, j'étais au chant. Ouais. Chant, guitare électrique, guitare lead. Avec basse et batterie, quoi. Donc, c'était vraiment le trio blues électrique par excellence.
On peut appeler ça une vocation précoce, quand même. Souvent, à cet âge-là, on se cherche encore pas mal.
Oui. Alors, moi, j'ai... Mais je disais tout à l'heure, tu sais, c'est les trucs que j'écoutais comme ça, plus petit. Et c'est en voyant le concert à Wembley pour Nelson Mandela. Il y a eu un concert, un énorme concert. Et c'était Dire Straits qui jouait. Et Dire Straits avait un guitariste qui accompagnait. Et ce guitariste, c'était Eric Clapton. Et il a fait un solo, à un moment donné, de guitare. Et je me suis dit, waouh. Il joue pas mal, quoi. C'est pas un manchot, lui. Et donc, après... C'était un temps où il n'y avait pas encore Internet et tout ça. Il fallait chercher les informations. On n'était pas encore submergé d'informations. Et donc, j'ai cherché à savoir qui était ce monsieur, Eric Clapton. Et je suis tombé sur une cassette vidéo VHS. Ça aussi, ça fait... Oh, le vieux groupe, donc. Il y avait un titre de Clapton avec Buddy Guy. Buddy Guy, qui est un monstre sacré du blues, le black américain, Chicago blues, enfin bon, dont je n'avais jamais entendu parler, quoi, forcément. Et une chanson. Et c'était... Je la joue encore, des fois, d'ailleurs, cette chanson-là. C'est la chanson qui a tout
déclenché.
Ah oui. Une chanson. C'était un truc de fou. Et après, je me suis rappelé que ce que j'avais écouté avant, les Creedence Clearwater Revival, les Johnny Rivers, tous ces trucs-là, évidemment, c'était du blues aussi, ou blues rock, des mélanges
des
de styles. Little Richard, c'était du rock'n'roll, mais le rock'n'roll, c'est quoi? C'est du blues qui est joué un peu plus rapidement. Donc tout était lié, en fait. Mais ça a été vraiment le déclic, là. Were It Live Blues, Buddy Guy et Clapton. Ça, c'était le.
C'est bien de pouvoir identifier aussi clairement.
La chair de poule. Rien que d'y repenser, c'est un truc de fou, quoi.
Ah, c'est marrant parce que je reçois souvent des musiciens dans cette émission et c'est rare qu'ils soient capables d'identifier des moments clés comme ça.
Ah oui, oui, oui.
C'est rigolo. Ouais. Et alors du coup, le projet Nico Bacton, à quel moment ça a vraiment démarré?
Alors ça, c'était en Belgique encore. Hein, tout ouais. Ça, premier album en 96, qui était un album solo. Après avoir fait le conservatoire du jazz après le bac, ouais. Mmh. Et donc ça a ouvert les portes. Voilà, j'ai débarqué avec une autoproduction, premier album, voilà, dans une institution en Belgique, enfin à Bruxelles, qui s'appelait le Blues Corner, et qui était l'endroit où ben, voilà tous les grands qui passaient en tournée en Belgique ben, faisaient des afters là-bas. Il y avait chaque fois que j'allais voir un concert là-bas, c'était un petit club minuscule de rien du tout qui payait pas de mine, mais c'était la scène, c'était le truc, c'était le Blues Corner, quoi. Et je débarquais à Bruxelles, donc je cherchais des musiciens, j'avais des copains du conservatoire, mais je cherchais des musiciens et tout ça, donc, et je suis allé frapper à la porte là-bas. Et c'est là que le patron qui joue de la batterie avec tous les groupes qui passent là, c'est bien placé le mec, et il m'a dit « Ah, mais toi, il faut que tu rencontres Muzz Horn, qui est un guitariste américain qui vivait à Bruxelles. » Et là, on s'est vus, et puis ça a été le début de Nico Bacton et Muzzy Horn. Ah. Et là, on a commencé à tourner, à faire la scène. C'était surtout le Benelux, beaucoup en Belgique, les Pays-Bas, un peu en Allemagne, un peu au Luxembourg. Mais c'était toutes les soit Cafcon, soit les petites salles, soit des restos, les restos jazz ou les restos blues, mais c'était un peu à l'américaine, quoi. Les restaurants, tout le monde est tablé, assis, tout ça, avec quand même une scène et un concert de 2 heures. Enfin, ça a commencé comme ça. Et puis est arrivé le moment où il a fallu choisir de soit, parce que j'ai rencontré une Catalane en fait à Bruxelles. Je sais pas comment.
Et là, dilemme.
Voilà. On arrivait à un moment où soit je ressortais un autre album, mais donc forcément on restait en Belgique, soit alors on se disait, bon, ben quand même, le climat est un peu plus clément.
C'est là que le soleil a commencé à te parler.
Exactement,
mais là, tu passes vite, mais je crois que ce premier album, il a quand même eu un certain retentissement, non ? Tu disais autoproduction, mais ça a été, c'est en pas fait, passé inaperçu.
Non, ça a été le premier contact avec le monde de la scène professionnelle et aussi avec les magazines spécialisés et des trucs comme ça. Donc, c'est d'un point de vue, comment on pourrait dire, vraiment presse.
Ouais.
C'était vraiment le premier point. C'était les premières chroniques et qui étaient assez positives. Donc, c'était plutôt content.
Oui, et puis quand, enfin, un jeune Belge qui se lance dans le blues, il n'est pas forcément attendu. Et là, du coup, c'était comment dire, les gens du milieu t'ont accepté.
Oui, avec ce disque, justement, que j'étais allé voir. Avec les 3 premières chansons qu'on avait enregistrées, j'étais allé voir un grand monsieur du blues en Belgique qui s'appelle Marc Lelang. Qui pour moi, c'est un peu mon. Voilà. Lui, il montait sur scène, c'était phénoménal. Mais il remplissait la grande place, les gens venaient le voir. C'était un grand monsieur du blues. Je suis allé le voir en me disant bon, mais je veux apprendre, quoi.
Ouais.
Et puis on a joué un peu, et il m'a dit mais.
Ouais.
Oh, c'est bon, on peut boire une bière si tu veux, mais j'ai rien à t'apprendre. Enfin, et il dit non, mais continue comme ça. Et puis je suis resté en contact, et puis j'ai joué avec lui, on a fait des concerts comme ça. Et donc voilà, ça a été, comme tu disais, un peu le déclic, quoi. C'est la première marche du milieu professionnel, de la scène professionnelle.
D'accord. Et alors là, t'aurais pu surfer sur tout ça, mais du coup, déménagement.
J'ai surfé parce que malheureusement, malheureusement et heureusement, parce qu'on se lasserait sinon, mais le milieu de la musique, la musique en général, si tu te renouvelles pas, tu peux pas surfer éternellement.
Non.
Sortir un disque et faire une carrière de 40 ans juste en surfant sur ce disque-là, ça n'existe pas.
Il y en a qui l'ont fait, hein, mais...
Et oui, il y en a qui l'ont fait.
mais c'est pas les meilleurs.
Voilà. Donc voilà, bien bossé, bien exploité ce premier album qui était sorti. Et puis, on arrivait au moment où il fallait faire le choix soit d'en ressortir un en Belgique, soit alors de se dire, bon, on repart un peu à zéro. Hein. Pour moi, c'était repartir à zéro, mais avec de l'expérience professionnelle quand même. Donc, j'avais une carte de visite pour trouver des musiciens ici et leur dire, bah, voilà ce que je fais. Entre-temps, j'avais un studio d'enregistrement aussi. Donc, je suis arrivé en pays catalan avec quand même avec quelques bagages et avec des trucs intéressants à proposer. Et voilà, j'ai rencontré des musiciens en leur disant, bah, moi, je peux t'enregistrer un truc si tu veux. Et c'est comme ça que j'ai rencontré les musiciens ici, quoi.
Donc ça, c'est la naissance des Wizards of Blues.
C'est la naissance des Wizards of Blues.
Ok. Ouais. Donc, c'est quelle année à peu près tu situes ça?
Alors, je suis arrivé ici en 2001. Et le premier album, bon, le temps de rencontrer du monde. Et puis de commencer d'abord dans le petit circuit, hein, les cafés-concerts, les trucs comme ça. Premier album avec les Wizards of Blues, c'était Backdoor Blues en 2005-2006. 2005, je crois.
D'accord.
Et ça, c'était le début de ce que moi, j'avais appelé le projet Vieux Blues. mais c'est un truc que j'avais en tête déjà en Belgique pour un deuxième album. Et c'était de se dire que voilà, avec tout ce que j'entends et les gens qui disaient après les concerts que je savais pas que ça aussi, c'était du blues. Moi, c'est la première fois que je reste à un concert de blues ou que je vais à un concert de blues ou que j'achète un disque de blues. Et je me suis dit, mais il faut essayer de trouver une façon... de faire un truc qui me passionne, hein, et encore toujours d'ailleurs, c'est d'essayer de rendre audible pour tous de la musique qui n'est pas forcément facile à écouter. C'est-à-dire une musique plutôt de puristes ou inconnus. Des enregistrements des années 20 ou des années 30, des trucs qui ont été enregistrés à 100 ans dans les champs de coton aux États-Unis. Bon courage pour écouter ça, parce que c'est presque inaudible. Il faut vraiment être passionné pour vouloir le faire. Et c'était en fait pouvoir... amener cette musique-là à monsieur et madame tout le monde, qui n'ont pas forcément les connaissances de cette musique, ou qui ne savent pas forcément ce que c'est, le blues, mais de se dire, voilà, il y a tellement de styles différents, il y a tellement de façons de jouer et d'écouter le blues, que le but du projet, ça a été, on prend ces morceaux, c'était sur cet album-là quasiment que des reprises, il y avait une seule composition, et de se dire, on les remet au goût du jour, on les enregistre avec une tourne peut-être un peu plus moderne, mais en restant vraiment dans la tradition. Donc c'était vraiment un pied dans le Mississippi et l'autre pied dans le 21e siècle, quoi. Et on essaye de faire en sorte que voilà, ça puisse atteindre tous les publics, et pas uniquement le public blues dans un circuit blues et tout ça.
D'accord.
L'idée est née comme ça.
Et là, il y a eu un bon accueil aussi.
Et là, il y a eu un très bon accueil.
Ouais.
Là, ça a commencé avec les Wizards, et puis... 2 ans plus tard, il y a eu le deuxième album, Blues on My Front Door, qui a très bien marché aussi, qui était encore des autoproductions et autodistributions. Donc ça marchait. Envoyé à toute la presse spécialisée. Oui. Là, on a mis le paquet aussi sur la promotion. Donc, c'était dans les magazines Crossroads, Rock and Folk, tous ces trucs-là qui ont chroniqué le disque. Donc, il a été très bien reçu. Et là, ça a ouvert la scène des festivals.
Ouais.
Où on a commencé vraiment à tourner sur toute la France et puis après sur l'étranger. Là, ça a été le déclic. Ces deux disques-là ont vraiment été le déclic.
D'accord. Ce qui est beau en autoproduction.
Oui.
Et alors, suite à ça, ça t'a permis de trouver justement des structures pour...
Suite à ça, et puis...
pour t'accompagner, ouais.
Et puis les tournées, pas mal de tournées, et puis les tournées aussi en Suisse, en Belgique, en Italie, en Angleterre, enfin ça a été des concerts un petit peu partout, jusqu'aux Canaries d'ailleurs, c'était vachement sympa, un super concert là, sur l'île de Fuerteventura, c'est assez cool quand même.
Ça va.
et donc voilà, ouais, 2009, il y a eu le troisième album avec les Wizards of Blues, Roots and Stories. Et ça, cet album-là a été distribué. C'est-à-dire que...
Oui, et là, il y avait...
On est passé...
On est sorti de l'autoproduction.
Voilà, on sort de l'autoproduction et on a boîte de prod et distributeurs. Et d'abord, sur l'Europe, c'est-à-dire les pays... de base, entre guillemets, c'est-à-dire la France, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg. Et puis après, le dernier album, lui, il est parti un peu partout. C'est voilà, Down the Line, la chanson qu'on a entendue tout à l'heure. Ouais. Il passe sur les ondes encore en Australie, en Argentine. D'accord. Il est distribué au Japon.
D'accord, donc tu prépares une tournée mondiale.
Lui,
en fait.
J'espère, un jour. Ce serait génial de pouvoir...
Tu m'étonnes.
Croiser mais il y a des anecdotes qui sont des trucs auxquels jamais je me serais attendu, quoi. On jouait au domaine de la perdrix. qui est à Trouillas. On a un rendez-vous tous les étés. Ouais. Il y a les Jeudis de la Perdrix. Mmh. Et c'est un concert que je raterai pour rien au monde, parce qu'il y a une ambiance tellement extraordinaire. Enfin, c'est vraiment une soirée spéciale. Donc ils ont des disques à moi qu'ils mettent dans un petit coin aussi pour la vente, comme on fait partie des artistes qui reviennent tous les ans dans le domaine. Ils sont assez sympas et donc ils sont devenus des amis entre temps. Ils ont le disque en vente aussi au domaine. Arrivent des clients new-yorkais qui viennent faire les dégustations, qui discutent et puis qui voient tout à coup Nico Bacton. Ah, les propriétaires qui disent, mais Nico Bacton, vous connaissez? Ah ouais, on connaît très bien. Il passe, on l'écoute tout le temps à New York, machin, sur la radio, je sais pas laquelle.
D'accord.
Et tu dis, non, mais il doit confondre, quoi. Il y a un truc, il y a peut-être plusieurs Nico Bacton, mais je sais pas, tu vois. Et après, c'est bon, ça fait plaisir, et c'est pas plus étonnant de ça, parce que l'album a été dans les charts justement américains, où il a été en quatrième position du top 50 des albums de blues contemporain, les plus passés en radio.
D'accord.
Donc en blues, c'est pas comme le Billboard les charts, c'est pas sur les ventes qu'on fait les charts, mais c'est sur les passages radio.
Qu'il a entendu, quoi.
Donc ça veut dire que même si c'est pas une question de vente, mais c'est une question de diffusion. Et on avait l'album qui était en quatrième position et on avait deux chansons de l'album qui étaient, je crois, en 10e et 12e position, tu vois, pareil du top 50. Donc ça veut dire qu'il y a eu une grosse diffusion. On était dans les charts en Angleterre aussi de la BBA.
Ça veut dire en tout cas qu'on a de la chance dans les PO d'avoir un des bluesmen quand même.
C'est le bluesman qui a la chance de vivre dans les PO.
Ouais, qui est quand même les plus reconnus actuellement. Et ça, c'est plutôt. Je suis pas sûr que tout le monde en ait conscience. Hein, parce qu'il faut dire, tu joues relativement peu dans le département.
Très peu.
Tu disais la Perdrix. Je sais que tu as joué au Mediator cette année.
C'était l'hiver dernier au Mediator.
Un petit festival par-ci, par-là.
On était adolescent à Saint-Estève. De temps en temps, non, c'est très rare.
Finalement,
on joue beaucoup plus.
Oui, c'est ça. Vous jouez dans des grosses scènes à l'extérieur. Et ici.
Et ici, très peu. Ouais.
Ici, on se repose.
C'est ça.
Mais alors, du coup, là, on te retrouve le 10 mars au Vino Shop. Pourquoi cette date, du coup
Parce que ça s'est présenté, parce que ça faisait un moment, parce que comme on n'a pas beaucoup de dates, on essaye de caler. Une date en hiver et au moins une date en hiver, et puis on sait qu'il y a de toute façon la date en été, et qu'on ait au moins deux dates correctes dans des salles correctes.
Voilà, et le Vino Shop, ça, c'est un endroit qui te donnait envie.
Et le Vino Shop, c'est un endroit que je l'avoue, je connaissais pas du tout. Et en fait, je suis allé voir parce que des demandes, il y en a beaucoup, hein, forcément.
Oui,
des fois, dans des endroits qui sont un petit peu compliqués. Alors, ça fait plaisir parce qu'il y a des gens qui veulent organiser un concert, mais après...
Oui, les conditions ne sont pas toujours...
Les conditions ne sont pas toujours top. Et puis, il faut savoir que on ne vient pas juste avec une guitare pour gratter la guitare. Tout le groupe qui se déplace, ce sont les musiciens, mais c'est aussi un technicien. Donc, il faut du son, il faut du matériel, il faut de l'éclairage. C'est toute une infrastructure, quoi. Ce n'est pas juste de l'improvisation. Et donc, malheureusement, on est obligé de décliner certaines offres. Tu vois, et là, donc, j'étais allé voir. Et ce qui m'a plu, c'est que c'est vraiment une salle à taille humaine. C'est plus petit que le Mediator, mais d'un autre côté, il y a une bonne capacité. Il y a 200-300 personnes debout, un truc comme ça. Et ce qui permet vraiment de passer un bon moment, d'avoir un contact aussi qui soit privilégié, rapproché.
Je ne peux pas m'empêcher de me dire quand même, la Perdrix, donc c'est une cave, Vino Shop, on vend aussi des produits issus de la vigne,
c'est un hasard pur et simple. Je tiens aussi à soutenir, n'est-ce pas, l'agriculture locale, n'est-ce pas, les produits locaux, c'est très important. Non, c'est vrai que c'est par hasard.
Non,
ça va, le Mediator, c'est pas... C'est bon.
Non, là, ça va, on est bon.
Aussi. Est-ce que j'ai encore joué dans le département?
Non, après, c'est vrai qu'ici, on retrouve beaucoup d'endroits aussi.
Il faut dire qu'on peut difficilement passer à côté.
C'est ça. Donc du coup, les gens qui veulent venir te voir au Vino Shop, c'est à quelle heure?
Alors c'est donc samedi 10, les portes ouvrent à 20h, je crois que c'est 20h30 le concert, ou 21h, je ne sais pas, bon, l'horaire classique. Mm-hmm. C'est 10€ l'entrée.
Il faut réserver ou on peut venir le jour même?
On peut venir le jour même, mais c'est mieux de réserver parce que le nombre de places est limité.
Oui.
Et puis voilà, bah alors ça fait hyper prétentieux de dire ça, mais c'est vrai que les derniers concerts, on a dû refuser du monde. Donc
d'accord,
c'est absolument pas pour me la péter ou quoi que ce soit, mais juste pour dire que c'est peut-être mieux de réserver. L'entrée est à 10€, donc c'est raisonnable pour un billet, et puis on le trouve un peu partout. À la FNAC, en ligne, ou sur toutes les billetteries reconnues, officielles, ou à Vino Shop directement aussi.
D'accord. Bon, bah, super, le rendez-vous est pris. Avant de se quitter, pour que tu nous joues un petit morceau en acoustique, j'ai l'habitude de finir cette émission en posant une question un peu idiote que j'aime bien répéter. Non, c'est pas vrai, elle est pas idiote. Qu'est-ce qu'on peut encore te souhaiter, Nico?
Plein de choses.
Parce qu'on voit que t'as déjà un parcours très très riche. Cette fameuse occasion peut-être d'aller voir tes fans australiens, américains.
Ou des choses bien plus simples. Chaque jour a son lot de renouveau, et puis ce qui est fait est fait. Donc comme on disait tout à l'heure, quoi, si faut de temps en temps un peu se botter le train pour continuer, parce que sinon ça retombe.
Oui.
Donc tout ce que je souhaite déjà, c'est de pouvoir continuer. C'est de pouvoir avoir la chance de continuer à faire de la musique dans des conditions qui sont de bonnes conditions. Mm-hmm. Et c'est le plus important, c'est ça.
D'accord.
Parce que c'est pas toujours facile non plus. Donc juste déjà pouvoir continuer et progresser. C'est continuer à travailler, continuer à progresser. Ça, c'est ce qui fait avancer le Schmilblick, hein, de toute façon.
Tout à fait. Ouais.
C'est pour ça que le prochain album, il est encore dans un petit coin en train de maturer, en train de fristouiller bien au chaud, parce que je veux pas précipiter les choses, justement, et je préfère prendre le temps de faire des choses correctement et d'avoir un digne successeur aussi de l'album Down the Line, quoi.
Ok. Ben, quand ça sera le cas, hein, je t'invite à venir nous le présenter.
Avec grand plaisir.
Avec plaisir. Qu'est-ce que tu vas nous jouer en acoustique?
Peut-être. Je pensais un vieux traditionnel que j'avais arrangé aussi, qui est sur le tout premier album.
D'accord.
Donc qu'on ne trouve plus, parce qu'il est, il y en a plus, et qui s'appelle Loverman. Alors le blues, c'est très amusant parce que c'est plein de toujours d'anecdotes, de sous-entendus et tout ça. Et là, le texte est assez particulier. Pour ceux qui comprennent l'anglais, comprendront. Et puis sinon, venez le 10 mars et je vous raconterai de quoi ça parle.
D'accord, bah merci beaucoup, Nico.
Avec plaisir.
À très bientôt sur Tekkit. I am your girl named Lucy. And my two girls just named Maria. Hand me a woman downtown, and I don't know her name. But it's all right with me, cause I'm a lover, maybe. Love that boy you see. I love them and I leave them, that's the way it's gotta be. So many women, Lord, I'm loving. So many men. I've been cooked, shark, and barely beat. Wonder I am there, cause I'm a lover, maybe, baby. Love that boy you see. Where I love them and I leave them, that's the way it's gotta be. Oh. So many women keeping me busy. I bring so fear that it makes me dizzy. Got women in the country, got new women in the town. Better believe I ain't gonna let them down. Cause I'm a lover, man, baby. Love them all you see. Where I love them and I leave them, that's the way it's gotta be. I had me a girl named Missy. And I had me two girls just named Maria. I hear a woman downtown, I don't know her name. But that's all right with me, cause I'm a lover, man.
Well, I love them and I leave them. That's the way it's gotta be.